Depuis que je m'intéresse au numérique, je me pose la question, Internet est-il de droite ou de gauche ? Bon, je sais que c'est une question un peu absurde, comme se demander si le foot est de droite ou de gauche, ou se demander quelle est la surface de Dieu, comme voulaient faire les pataphysiciens. Bon, en même temps, c'est une question qui fait écho à une impression qu'on est, je crois, nombreux à ressentir. L'impression que progressivement, les utopies dont était porteur l'Internet, en gros, la participation, l'horizontalité, l'émergence des voix minoritaires, ces utopies donc s'étaient dissipées, et que les voix qu'on y entendait le plus, c'était celles des marchands, des réactionnaires, des complotistes, etc. Mais bon, c'est pas si clair non plus, parce que plein de mouvements émancipateurs doivent beaucoup au réseau. Encore aujourd'hui, hein, qu'on pense par exemple à MeToo ou à Black Lives Matter. Bon, bref, j'en étais là de mes réflexions, c'est-à-dire pas très loin, quand à l'orée de cette nouvelle campagne présidentielle, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de donner un peu de corps à ce pressentiment que, pendant les mois qui viennent, l'Internet français allait me déprimer. Je cherchais comment prendre le problème quand je me suis souvenu d'un livre dont on m'avait parlé. Un livre qui s'intitule « The Revolution That Wasn't ». En français, « La révolution qui n'a pas eu lieu ». Un livre écrit par une chercheuse américaine du nom de Jen Schready, dont on m'avait dit le plus grand bien. Alors en effet, après lecture, le travail de Jen Schready est édifiant. Pendant 4 ans, elle a suivi au quotidien le travail d'une quarantaine de groupes politiques en Caroline du Nord, des groupes de droite, d'extrême-gauche, de gauche, des groupes noirs, des groupes ouvriers, etc., pour voir comment ils utilisaient Internet. Quels messages ils y diffusaient, à quel rythme, selon quelle organisation, avec quelle efficacité, etc. Et elle arrive à une conclusion implacable. Politiquement, les idées de droite dominent Internet. Bien sûr, il faudrait prendre 1000 précautions dans l'usage de ce terme de droite. D'ailleurs, Jen parle plutôt d'idées conservatrices. On pourrait passer là encore des heures à essayer de délimiter le contour politique de ce terme, à essayer de voir ce qu'il signifierait dans un contexte français, etc. Mais je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Le plus intéressant, selon moi, ce sont les preuves qu'apporte Jen Schready, les faits qu'elle a observés et les conclusions qu'elle en tire.
Le code a changé.
Comme Jen vit et enseigne en France, je lui ai demandé si elle pouvait passer un jour à la maison de la radio. Et on a pu discuter tranquillement en anglais parce qu'elle s'y sent plus à l'aise. Et à peine s'est-elle installée dans son fauteuil que je lui ai dit que son travail était super, mais que la conclusion était vraiment démoralisante.
Tout dépend du point de vue. Pour les conservateurs, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est plutôt eux qui dominent l'Internet. Donc bon...
C'est vrai. Il aurait été plus déontologique que je conserve une forme minimale de neutralité politique. Pourtant, faire amende honorable ne m'est pas venu à l'esprit. Au lieu de ça, j'ai retourné la question à Jen. D'accord, mais de votre point de vue, à vous, c'est une bonne nouvelle ?
On
n'enregistre pas, c'est ça.
Ok. I think that...
Je pense que ce qui s'est passé dans les 30 dernières années avec Internet n'est pas surprenant. Même si, bien sûr, pendant tout un temps, l'utopie dominait. Internet était censé être plus égalitaire, il était censé constituer un espace où tout un chacun pourrait participer. Il était censé bouleverser la communication à l'ancienne, les institutions, etc. Donc, ça, c'est un regard historique. Mais si je me place sur un plan plus personnel, oui, j'aurais préféré qu'Internet soit un lieu plus accueillant pour les gens dont les voix sont inaudibles dans les médias mainstream ou les institutions politiques. Mais la réalité, c'est qu'Internet, par bien des aspects, n'a fait que prolonger ce qui se passait avant l'avènement de l'ère numérique.
Bon, le constat est ardent. Qu'Internet n'ait pas rempli ses promesses, je veux bien. C'est sûr que quand on relit aujourd'hui la déclaration d'indépendance du cyberespace que publiait John Perry Barlow à Davos en 1996, on a presque envie de rigoler.
Davos, Switzerland.
À l'époque, Perry Barlow, il était célèbre pour être le parolier du groupe de rock psyché les Grateful Dead, et aussi un acteur important de l'Internet naissant. Et cette déclaration qui a marqué les esprits, il a enregistré pour l'histoire 20 ans plus tard.
A declaration of the independence, John Perry Barlow.
Et alors on y entend des trucs comme
We are creating a world
that all may enter without privilège or prejudice.
Nous créons un monde où tous peuvent entrer, sans privilège ni préjugé dicté par la race, le pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance.
We are creating a world where anyone, anywhere, may express his or her beliefs, no matter how singular.
Nous créons un monde où chacun, où qu'il se trouve, peut exprimer ses idées aussi singulières qu'elles puissent être, sans craindre d'être réduit au silence ou à une norme.
Your legal concepts of property, expression,
vos notions juridiques de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement et de contexte ne s'appliquent pas à nous.
They are based on matter.
Elles se fondent sur la matière.
There is no matter here.
Ici, il n'y a pas de matière. Bon, ce serait presque cruel de continuer la lecture, tant tout ou presque de ce qu'annonçait Perry Barlow a été contredit. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on s'est illusionné depuis le début, ou est-ce qu'il y a eu un tournant, un moment où les idées les plus conservatrices ont pris l'ascendant ?
It's true that initially there were very more left-leaning.
C'est vrai qu'au début, beaucoup plus de groupes de gauche étaient dominants dans ce qui attirait l'attention dans les réseaux. Je pense bien sûr au printemps arabe, aux indignés en Espagne ou encore Occupy Wall Street. C'est vrai que dans les mouvements sociaux, on voyait Internet d'un très bon œil. Mais le problème, c'est qu'on ne regardait pas ce qui se passait dans les mouvements de droite. On ne regardait pas la manière dont, en coulisses, les technologies numériques étaient devenues un espace à conquérir pour les puissants. Le premier accroc à cette belle histoire qui a sauté aux yeux de tous, c'est le Gamergate. Le Gamergate, c'est un mouvement de femmes qui se sont mises à critiquer l'industrie du jeu vidéo, à la fois les gamers et les développeurs. Les femmes à l'origine de ce mouvement ont été harcelées au-delà de ce qu'on peut imaginer. Elles ont été personnellement menacées de viol, de mort. Et cela a provoqué une discussion. Encore une fois, ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Mais aux alentours de 2015, on a commencé à prêter plus d'attention à ces fissures qui apparaissaient dans la bulle digitale. Et après, avec l'élection de Trump, les gens ont été tellement choqués. Et puis, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica et le Brexit, et les gens ont commencé à voir comment les réseaux sociaux pouvaient être utilisés par les gens qui étaient au pouvoir. C'était déjà là avant, mais les gens ont eu beaucoup plus conscience de ce qui se passe vraiment quand quelqu'un écrit un post de blog ou un message sur les réseaux qui devient viral. La face sombre de ces soi-disant espaces de participation est devenue beaucoup plus évidente.
En écoutant Jen Schreddy, je me remémore assez précisément ce moment. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. 2014, 2015, 2016, c'est un tournant dans notre perception, avec tous les éléments qu'elle cite, hein, Brexit, Trump, Cambridge Analytica, etc. Alors, moi j'ajouterais peut-être un phénomène qui a beaucoup joué personnellement, c'est le moment où on s'est aperçu que les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en premier lieu, étaient les espaces privilégiés de recrutement pour les djihadistes de l'État islamique. J'étais à l'époque à Rue 89 et un de nos journalistes avait créé sur Facebook un faux compte de jeunes de banlieue un peu paumés. Il avait liké 3 vidéos de l'État islamique, on en trouvait plein à l'époque sur Facebook. Et 2 jours après, il était en train de discuter avec des Français qui étaient partis rejoindre Daesh en Syrie. Il y a eu aussi à cette même époque tout le travail du journaliste de RFI David Thompson, qui discutait quotidiennement et de manière presque ouverte hein, dans les réseaux avec des Français qui étaient en Syrie. Et puis il y a eu évidemment les vidéos d'État islamique, terrifiantes mais très bien faites, qui circulaient si facilement dans tous les réseaux. Bon, même si j'ai bien conscience que ce n'était pas un phénomène dominant, hein, tout ça a été un tournant dans ma perception du rôle politique d'Internet, notamment hein, du fait de la passivité des plateformes. Mais bon, moi j'en restais à des impressions. Jane, elle a fait un boulot de fond. Des années à suivre des groupes militants, à les interroger, à scruter leur activité en ligne, à quantifier leurs usages, pour arriver à des conclusions plus solides. Je lui demande d'ailleurs quelle était son intuition de départ.
I'll give you a little bit of my background.
Yeah.
Je vais vous raconter un peu mon parcours si ça vous intéresse. Donc avant de devenir universitaire, je réalisais des films documentaires. J'utilisais le cinéma pour documenter des mouvements sociaux et syndicaux se mobilisant pour plus de justice, en Amérique du Sud notamment. J'ai aussi fait un film sur un mouvement d'agriculteurs aux Philippines. Et en 2000, pendant que je faisais la promotion de mon dernier film, j'ai eu à subir les critiques de réalisateurs plus classiques qui considéraient que tourner avec des caméras numériques était un peu déclassé. Alors que pour mon caméraman et moi, qui devions crapahuter dans la jungle philippine au milieu d'une guerre civile et pouvions nous faire tirer dessus, il était beaucoup plus pratique d'avoir recours à ces outils numériques. Là, j'ai éprouvé dans ma propre histoire la transformation numérique. Quand je suis allée présenter ce film dans les salles d'art et d'essai, les festivals et les universités, j'ai commencé à me passionner pour la question dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces médias numériques ? Plutôt qu'une réalisatrice américaine blanche qui vient documenter des gens marginalisés en lutte pour plus de justice, est-ce que ces outils numériques ne pourraient pas permettre aux gens eux-mêmes de faire entendre leur voix ? C'est cela que j'ai voulu explorer dans mes recherches universitaires. Donc je suis retournée à l'université, j'ai commencé mes recherches en 2006. C'est cette année-là que Facebook s'est ouvert au grand public, que Twitter a été lancé et que YouTube a commencé à être diffusé dans le monde entier. Ça a vraiment été une année charnière. Donc mon champ de recherche s'est beaucoup étendu. Et comme j'avais fait ce travail sur les pauvres et la classe ouvrière, la grande question qui se posait à moi était de savoir. Vous savez, quand le Time Magazine a décidé en 2006 que la personne de l'année serait vous, j'ai voulu savoir qui était ce vous. Est-ce que c'est vraiment tout le monde? Est-ce que la voix de chacun allait être entendue? Et donc j'ai commencé mes recherches autour de cette question. Qui crée des contenus? Qui sont les producteurs numériques? Pas seulement les usagers, mais les vrais producteurs. Et j'ai constaté qu'il existait une vraie fracture numérique dans la production de contenu. Et ce fossé, il a continué à se creuser d'année en année.
Alors là, je trouve très intéressante la définition que donne Jane à la fracture numérique. Pour nous, en France, la fracture numérique, c'est surtout une question d'accès. On considère que les gens victimes de la fracture numérique, donc, sont des gens qui n'ont pas accès aux technologies pour des raisons économiques, des raisons de compétences, de géographie parfois. Or, en parlant de production de contenu, Jane, elle ajoute une dimension supplémentaire. La fracture numérique, c'est moins ne pas avoir accès que ne pas produire des contenus. Et là, je pense qu'elle a raison. La discrimination par l'accès, elle continue d'exister, hein, mais maintenant que presque tout le monde est connecté, la discrimination de la production est sans doute beaucoup plus opérante. J'y pensais récemment d'ailleurs en discutant avec un copain qui travaille chez TikTok et qui me racontait, je crois que c'est en France, hein, que 91% des usagers de TikTok ne postent jamais rien. Ça signifie donc que la totalité des contenus de TikTok sont produits par moins de 10% des usagers. Ce qui, il me semble, est bien supérieur aux autres réseaux sociaux. Alors mon copain, lui, il en concluait que TikTok, pour lui, n'était pas un réseau social, mais une nouvelle sorte de télévision. Vu le succès croissant de TikTok dans le monde, en France c'est 10 millions d'usagers je crois, ça accréditerait l'idée de Jane que cette fracture numérique en termes de production de contenu, eh ben, elle s'est plutôt accrue au fur et à mesure du temps. Mais alors, du coup, je demande à Jane pourquoi ? Pourquoi cette fracture productive, alors même qu'Internet permet de participer très facilement et gratuitement, contrairement à beaucoup des autres médias ?
Ça n'est pas forcément vrai pour des gens qui ont un plus faible niveau d'éducation, de revenus et de pouvoir. Il faut avoir le temps, les ressources, les compétences et l'assurance suffisante pour fabriquer des contenus numériques. Même des choses aussi simples qu'une vidéo ou un post dans un réseau social. On pense tous que c'est très simple, que ça va de soi et que tout le monde sait créer un contenu qui devienne viral. Or, c'est, je crois, le grand mythe de notre époque. Tout contenu peut devenir viral. Non, la vérité, c'est que la plupart des contenus qui deviennent viraux ont été fabriqués. Le contenu spontané qui devient viral n'est pas la norme.
Ça, c'est la première conclusion du travail de Jen Shreddy. Le numérique reproduit les inégalités de pouvoir qui sont à l'œuvre dans la société. Pour le dire autrement avec un vocabulaire de la vieille gauche, les classes sociales continuent d'exister très fortement sur Internet. Les peu éduqués, les pauvres, les marginaux le sont aussi dans les réseaux. Ça paraît évident, mais c'est quand même pas mal de le rappeler quand on parle de militantisme en ligne. Puisque ça va décider des sujets abordés, évidemment, et de comment ils vont être abordés. Néanmoins, pourquoi est-ce que ça favoriserait nécessairement les idées conservatrices? Parce que si on prend juste la France et qu'on regarde le vote, ça fait quand même quelques décennies que les classes populaires ne votent plus majoritairement à gauche. C'est même l'inverse. La gauche est devenue une gauche brahmane, comme le dit l'économiste Thomas Piketty, c'est-à-dire un vote de CSP+. Bref, que ces mêmes CSP+, soient plus présentes et plus productives en ligne, et conséquemment les plus pauvres moins présents, eh ben, ça devrait plutôt profiter aux idées de gauche, mécaniquement. C'est un argument qui me semble aller à l'encontre de la thèse de Jen, mais bon, je le laisse de côté pour l'instant. Parce qu'un terme m'a fait tiquer dans ce qu'elle dit, Jen. La plupart des contenus viraux ont été fabriqués, manufactured, elle dit. Qu'est-ce qu'elle entend par là, fabriquer ? Fabriquer par qui ?
Le mythe sur lequel repose Internet est qu'il s'agit d'un espace qui connecte des individus. Un très bon livre de Barry Wellman et de Lireni analyse cette théorie de l'individualisme connecté. Nous serions des individus qui viennent participer à la conversation numérique en tant qu'individus, sans avoir besoin de syndicats, d'institutions ou de partis politiques. Nous n'agirions en ligne qu'à titre individuel. Mais c'est tout simplement faux. Nous sommes tous pris dans une société, des institutions, des lieux de travail, etc. Et ce sont les institutions les plus puissantes, celles qui ont le plus de ressources, qui ont tendance à dominer en ligne. Je vais vous donner un exemple concret. Quels sont les postes qui deviennent viraux ? J'ai parlé pendant mes recherches à de nombreuses personnes qui créent du contenu politique en ligne. Il en ressort que les plus efficaces sont soit payées pour ça par des organisations, c'est pour ça que je parle de contenu fabriqué, soit sont des bénévoles à plein temps qui passent des heures à essayer de comprendre quel contenu peut devenir viral. Par exemple, à un moment donné, Facebook n'arrêtait pas de changer son algorithme. Cela dit, ils continuent à le faire tout le temps et c'est la même chose pour Instagram. Et on s'est aperçu que si on ajoutait une photo à un post, il serait mieux exposé. Il y avait plein d'autres petits trucs à savoir comme ça. Et seuls les gens qui savaient à quelle heure il valait mieux mettre le contenu en ligne, qui avaient le temps de le suivre, qui savaient trouver la bonne image, seuls ces gens parvenaient à donner à cette présence numérique fabriquée une vraie puissance.
C'est intéressant ça, mais j'ai la même réserve que tout à l'heure. Ok, mais en quoi est-ce que cela favorise les idées conservatrices ? Et puis, me reviennent des passages du livre de Jen. Pour bien manufacturer, pour bien fabriquer, il faut être organisé, il faut de la hiérarchie. Est-ce que c'est ça dont elle parle ?
Absolutely. I think that, to me, was, one of the findings...
Absolument, et c'est ce qui, dans mes recherches, contredit le plus frontalement l'idéal d'horizontalité. La raison pour laquelle ce sont les organisations les plus hiérarchiques qui détiennent le pouvoir sur Internet, c'est qu'elles sont plus susceptibles de diviser le travail pour obtenir cette expertise. Bien sûr, vous et moi pouvons apporter de nombreux contre-exemples.
But it's important to remember that
Mais il faut avoir en tête que les mouvements politiques qui ont une grande exigence d'horizontalité, on peut penser aux indignés en Espagne ou Occupy Wall Street, ces mouvements font tout pour ne pas créer de hiérarchie. Or, ces mouvements, la plupart du temps, s'éteignent assez vite. Les mouvements politiques qui s'implantent sur le long terme et finissent par avoir un large impact numérique reposent sur la division du travail et sur une expertise qu'on ne peut développer qu'avec un ensemble de ressources. C'est ce que moi j'appelle une bureaucratie numérique.
Le terme est intéressant, hein ? Bureaucratie numérique. C'est drôle parce que récemment, là, mon copain qui bosse chez TikTok, toujours le même, a employé exactement ce terme pour parler de son travail. Il a dit en substance, bon, la plupart de mes tâches, ça relève de la bureaucratie numérique. Alors lui, il connotait négativement ce terme. Il y voyait, bon, de la lourdeur, des réunions inutiles. Mais Jen en a manifestement une conception beaucoup moins négative. Parce qu'elle a constaté une efficacité à cette bureaucratie. Une efficacité qui est rendue possible par la hiérarchie et la division du travail. Même si la bureaucratie n'est pas le privilège de la droite, je vois bien comment elle contredit la manière dont se pense et s'organise la plupart des mouvements de gauche. C'est sûr que les indignés en Espagne, Occupy Wall Street ou même des mouvements aujourd'hui comme le zadisme en France n'ont aucun goût pour la hiérarchie. Et c'est même l'inverse. Il y a une réticence très forte à la représentation, à la verticalité. On cherche au contraire l'horizontalité, la prise de parole la plus collective possible. Et cette ambition, elle se retrouve forcément dans la manière dont ces mouvements vont utiliser les réseaux. C'est ce qui fait sans doute leur force au début, mais peut-être leur faiblesse à long terme. Et c'est peut-être ça que suggère Jen quand elle dit que ces mouvements, en général, ils ne durent pas. Bon, ok, là je commence à voir plus précisément pourquoi les mouvements conservateurs seraient dominants en ligne. Mais la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que cette domination, elle tient juste à la manière dont s'organisent les groupes, ou est-ce qu'il en va aussi des contenus ? Est-ce que cette domination est structurelle, organisationnelle, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans les messages de droite qui les rend en eux-mêmes plus efficaces ?
Both.
Ouais.
So,
les deux.
If we look at...
Regardons les débats qui ont lieu en ce moment en France. Quels messages sont les plus viraux ? On le voit avec Zemmour, les posts qui fonctionnent le mieux sont ceux qui attaquent les immigrés et revendiquent une soi-disant liberté d'informer, etc. Des contenus très polémiques qui se concentrent sur quelques sujets. C'est la force de la pensée conservatrice que d'être focalisée sur quelques sujets, de les labourer sans cesse en accumulant les arguments, les déclarations et les affirmations idéologiques. À gauche, au lieu de se concentrer sur un sujet comme la liberté, on se préoccupe de justice et on décline ce thème dans nombre de contenus qui abordent plein de sujets différents. On le voit aujourd'hui en France. Regardez le nombre de candidats à gauche. On pourrait considérer que c'est bête. Mais c'est aussi pour ça que nombre de sujets exigent d'être traités du point de vue de la justice. Les sujets LGBTQ, la question du travail, des droits civiques, les droits des femmes, des étudiants. Or, toutes ces idées différentes ne tiennent pas ensemble en un tweet.
C'est très important que Jen n'en reste pas à la question du ton employé dans ses messages. Parce qu'on irait trop vite en disant que les contenus conservateurs ou d'extrême droite sont par essence plus agressifs que ceux de la gauche. Bon, quiconque s'est pris un shitstorm de facho, ça m'est arrivé une fois pendant tout un week-end, sait que c'est violent. Mais on ne peut pas nier qu'il y a des moments où les raids de la France insoumise, pour ne prendre que cet exemple, ne brillent pas non plus par leur délicatesse. C'est beaucoup plus intéressant de mentionner, comme le fait Jen, cette diffraction des idées progressistes dans toute une série de thématiques. Et donc sur la moindre efficacité de cette diffraction. Et même si je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'autres reproches à la gauche, française en particulier, c'est vrai que ces idées ne tiennent pas en un tweet. Mais du coup, j'aimerais bien que Jen s'explique sur une chose qu'elle écrit dans son livre. Elle dit qu'on ne peut pas comprendre un mouvement social En analysant juste un hashtag, c'est-à-dire bon, un sujet de conversation numérique, qui peut aussi être un slogan ou un signe de ralliement. Et j'ai besoin qu'elle m'explique pourquoi elle trouve utile de préciser ça.
Je vous le dis franchement, quand on est universitaire, c'est trop facile et trop rigolo de suivre un hashtag. Quand j'ai commencé mes études en 2006, j'ai suivi un cours sur les réseaux sociaux à Harvard. On galérait à entrer des données, on ne pouvait pas extraire automatiquement les données du web, on ne pouvait pas du tout faire ce qu'on fait aujourd'hui. On avait des logiciels, mais ils étaient super basiques. Aujourd'hui, il suffit de décider à quel hashtag on veut avoir accès, et en une minute, on obtient un graphe social. C'est un vrai problème, toutes ces analyses de hashtag qu'on voit dans le champ universitaire et dans les médias.
En fait, là, je vois tout à fait ce dont parle Jen. Je me souviens très bien qu'à Rue 89, on s'est mais régalé de cet outil. D'ailleurs, on avait beaucoup utilisé les analyses produites par un jeune chercheur belge du nom de Nicolas van der Beest, qui était capable de voir comment naissait un hashtag, comment il se diffusait, par quels groupes sociaux, etc. C'était passionnant. Un exemple parmi d'autres dont je me souviens, Nicolas avait analysé comment une histoire de burkini dans une piscine de Marseille s'était répandue dans les réseaux sociaux. D'abord, un micro-fait, relayé et interprété par des comptes d'extrême droite. Ça entre dans le giron des comptes du Rassemblement National, c'était encore le FN à l'époque, puis de la droite conservatrice, qui le relaie, puis les journalistes qui suivent particulièrement ces réseaux d'extrême droite et de droite très dure en font une rapide recension, qui est vue par les journaux plus mainstream, mais aussi par le camp adverse, qui se met à dénoncer l'islamophobie et essaie de produire un autre récit. Et enfin, les éditorialistes s'emparent du sujet et donnent une interprétation politique plus large. Bon. Eh bien, la détection de ce schéma de propagation, schéma d'ailleurs qui se répète à chaque micro-fait du même type, avec à peu près les mêmes acteurs, eh bien, c'est très instructif. Mais Jen, elle a l'air d'avoir des reproches à faire à ce type d'analyse. Alors, je voudrais savoir, mais qu'est-ce qu'on rate quand on suit un hashtag ?
Ce que vous ne voyez pas, c'est qui est derrière, qui le crée. Par ailleurs, vous ne voyez pas non plus ce qui n'est pas là. Parmi les 34 groupes militants que j'ai étudiés, j'ai regardé leur usage de Facebook, de Twitter, leur site. Et parmi les 65 000 tweets émis par ces groupes, seul un provenait d'un groupe de classe sociale inférieure. Statistiquement, c'est zéro. Donc ce n'est pas en suivant un hashtag qu'on voit ce qui est vraiment important.
C'est quand même très intéressant cette idée qu'un hashtag peut faire écran. Bon, je résume où on en est avec Jen. Si j'ai bien saisi, pour comprendre comment Internet favorise les idées de droite et d'extrême droite, hein, il faut prendre en compte les trois niveaux de son analyse. Premier niveau, Internet perpétue les dominations sociales. Ceux qui sont marginalisés et défavorisés dans la société le sont aussi dans les réseaux. Il y a donc des groupes sociaux qui ne sont pas dans la conversation numérique. En soi, ça ne favorise pas la droite, mais ça élimine certains sujets et certains types de paroles de cette conversation numérique. Deuxième niveau, Internet favorise les organisations structurées, hiérarchisées, qui divisent le travail et ont de l'argent. Alors, il y en a à gauche de ces types d'organisations, mais elles sont moins nombreuses qu'à droite. Et surtout, les mouvements spontanément progressistes sont rétifs à ces qualités. Troisième niveau, la diffusion sur Internet favorise les contenus simples politiquement, polémiques et assénés à répétition, ce qui est un trait de la pensée conservatrice plus que de la pensée progressiste. Alors, pris indépendamment, ces trois constats ne seraient pas forcément favorables aux idées conservatrices. Mais quand on les combine, on comprend très bien pourquoi ce sont en effet les conservateurs qui dominent l'Internet. Bon, voilà grossièrement résumé ce qui ressort de l'immense travail de Jen. J'ai l'impression qu'à certains moments, on y va un peu à la truelle dans cette discussion, en tout cas moi, que tous les termes mériteraient d'être explicités, mais bon, il faut qu'on avance. Parce qu'il y a un paradoxe qui me frappe. Si on est d'accord avec Jen Schreddy que ces outils, bon, globalement, Facebook, Twitter et toute une partie des plateformes et des logiciels moins visibles, mais qui aident à propulser les contenus, que ces outils donc favorisent les idées conservatrices, comment expliquer qu'ils aient été créés par des gens dont beaucoup se disent progressistes. Parfois démocrates affirmés, parfois libertariens, d'accord, mais rarement républicains et encore plus rarement conservateurs. Comment comprendre ça? Des gens plutôt progressistes qui créent des outils, qui favorisent le conservatisme. Prenons les patrons de la Silicon Valley. Je veux bien que ces types soient blancs, riches, privilégiés la plupart du temps, qu'ils viennent souvent de grandes universités, mais quand même, ils ne se vivent pas comme conservateurs pour la plupart.
Ça dépend. Si on ne regarde que cette partie de la Californie, oui. Les gens qui développent ces outils sont plutôt ouverts d'esprit, plutôt libéraux, progressistes, plus à gauche que la moyenne. Mais prenons une perspective plus historique. Les innovateurs sont rarement des gens d'extrême droite, d'accord. Mais le destin d'une invention dépend de qui s'en empare. Dans ses livres, Fred Turner a très bien documenté la naissance de l'Internet et comment la contre-culture californienne des années 60 a donné lieu à la cyberculture. Or, ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est qu'il montre que oui, à l'origine de l'Internet, il y a la contre-culture, le désir d'aller contre l'ordre établi. Mais il montre aussi que c'était un tout petit milieu. Or, être blanc, être diplômé, ça fait une grande différence quand ça se traduit en algorithme. C'est peut-être un libéral qui a codé l'algorithme qui classe les images quand on tape les mots « femmes noires » sur Google. Est-ce qu'on voit apparaître des images de femmes en blouse devant des paillasses de laboratoire? Non, pas du tout. Je pense donc que la question politique se loge dans les gens et les structures qui créent ces outils. Alors oui, évidemment, certains parmi les créateurs de ces technologies ont été choqués de ce qui se passait avec Trump, etc. Mais après tout, ils ont mis ces outils à disposition et à disposition de ceux qui sauraient en profiter. Or, l'histoire le montre, ce sont toujours les plus puissants qui en profitent.
Là, Jane dit au moins trois choses que je trouve hyper importantes. D'abord, sur l'histoire de la Silicon Valley, elle cite Fred Turner et son formidable livre, qui a été traduit en français, hein, « Aux sources de l'utopie numérique, de la contre-culture à la cyberculture ». Or, Fred Turner montre que, dès le début, il y a une ambiguïté politique dans Internet. Ces gens qui proviennent de la contre-culture, ce qu'ils partagent, c'est surtout la défiance vis-à-vis de l'État, c'est l'auto-organisation. Les gens qui fabriquent ce premier Internet ne sont pas ceux qui manifestent, par exemple, contre la guerre du Vietnam sur les campus et qui vont ensuite entrer dans le Parti démocrate américain. Ceux qui vont se lancer dans l'Internet naissant, ce sont des anciens hippies qui s'en foutent de la politique institutionnelle et qui sont partis créer des communautés dans le désert. Or, ces valeurs ne sont pas complètement incompatibles avec une forme d'ultralibéralisme qui frise parfois le libertarianisme. Et d'ailleurs, très vite, ces anciens hippies qui ont migré dans Internet parce qu'ils y voient le moyen de faire virtuellement les communautés qu'ils avaient échoué à faire vivre dans le réel, eh ben, ils s'acoquinent avec des entrepreneurs qui emmerdent l'État, voire ils deviennent eux-mêmes des entrepreneurs qui emmerdent l'État. Et ces gens-là, c'est pas parce qu'ils veulent foutre le bordel, c'est pas parce qu'ils veulent bouleverser les vieilles institutions qu'ils sont progressistes. Bref, depuis l'origine, Internet, politiquement, c'est compliqué. L'autre chose passionnante que dit Jane, c'est que les gens de la Silicon Valley qui ont fabriqué l'Internet d'aujourd'hui, hein, celui des Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc., ils sont peut-être progressistes, ou en tout cas se vivent comme ça. Mais bon, en majorité, ce sont des hommes, blancs, diplômés, qui proviennent des classes supérieures. Ce sont des bourgeois, on dirait en France. Et donc, malgré leur progressisme autoproclamé, il y a plein de thèmes auxquels ils ne sont pas forcément sensibles. Et ça se répercute nécessairement dans les outils qu'il crée. Dernière chose importante que dit Jane, comme la radio, la télé ou d'autres médias, Internet et tout ce qu'il compose, hein, est créé par des gens, puis utilisé par d'autres gens. Or, d'après Jane, dans cette compétition de l'utilisation, ceux qui étaient puissants avant sont favorisés. Mais quelque chose m'intrigue. Pourquoi pas grand monde n'a vu venir cet Internet conservateur et réactionnaire qui commençait à se former dans ces espaces où, malgré tout, on avait l'impression que le progressisme dominait? Même si c'était une illusion, Pourquoi est-ce que cette illusion, on l'a perdue aujourd'hui ?
C'est le reflet de la montée en puissance de ces mouvements dans la société. Aujourd'hui, l'extrême droite monte en France. Elle montait aux États-Unis avant l'élection de Trump. Quand j'ai commencé à raconter ce que je voyais au tout début de mes recherches, que les conservateurs dominent l'Internet, les gens croyaient mes données, mais ils avaient du mal à se résoudre à mes conclusions. On avait envie de croire, et d'ailleurs on continue de l'entendre parmi les gens de gauche. Internet nous appartient. Il a fallu que Trump l'emporte pour que les gens me disent « Ah ok, tu avais peut-être raison ».
La dominance des conservateurs n'était pas...
Mais ce n'est pas à cause de ces gens que ces idées s'imposent. Ce n'est pas à cause d'Éric Zemmour, de Donald Trump ou de Marine Le Pen. Leur talent est juste de rassembler un mouvement qui leur préexiste. Et ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils le font avec le soutien d'autres institutions.
Bon, il est violent ce parallèle dressé par Jane entre ce qui se passait sous Obama et ce qui se passe aujourd'hui en France. On pourra toujours dire que la situation n'est pas la même, c'est pas faux, mais il faut aussi se méfier de cet Internet qui nous envoie des signaux. La question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce qu'il y a un espoir que la gauche, un jour, s'impose dans la conversation numérique ?
Absolutely.
Bien sûr, il y a de l'espoir, mais cela nécessiterait que deux ou trois choses changent. Les sociologues vous diraient qu'il faudrait des changements structurels massifs. Mais je ne crois pas qu'il faille nous laisser ensevelir sous l'immensité de la tâche. Il y a aussi des choses très concrètes à faire. La première est de comprendre qu'il faut du temps, du travail, de l'expertise et des gens dédiés pour exister en ligne. Il faut des personnes en coulisses. Ensuite, il faut accepter de produire des messages très ramassés. Les conservateurs sont très bons dans la provocation. Et puis, j'ai remarqué que beaucoup de groupes de gauche, quand ils utilisent des images dans leurs posts, choisissent des images, mettant en scène le collectif, des gens qui sont ensemble dans une manifestation, qui luttent tous pour la même cause. Ça peut aider à consolider, à inspirer, mais ça n'ira pas au-delà. Si vous allez à une manifestation et que vous postez une photo de vous avec des copains, peut-être que quelques amis likeront, peut-être que votre mère repostera, mais ça n'ira pas plus loin.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Vraiment penser à ce qui peut devenir viral ou pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas poster ce genre de photos. Mais il faut penser à ce qui a le plus d'impact, ce qui va le plus se diffuser, ce qui touche le plus les gens. Il faut trouver le sujet qui engage le plus. Or, on sait que ce qui marche, c'est la personnalisation fabriquée. Ce qui devient viral, c'est une histoire personnelle, quelque chose qui m'est arrivé à moi. Des posts durs, mais parfaitement légitimes, comme « j'ai été attaqué par la police », ce genre de choses deviennent virales.
J'avoue que je suis troublé par ce que dit Jane. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à supporter la personnalisation militante. Par exemple, des gens comme les journalistes Taha Bouafs et Gaspard Glanz, qui sont très actifs dans la dénonciation des violences policières. J'ai beau respecter leur courage et ne pas du tout être hostile à leurs idées, hein, la manière dont ils se mettent en scène, ça me fatigue. Plus qu'elle me fatigue d'ailleurs, elle me semble entrer frontalement en contradiction avec la pensée de gauche qui tient précisément dans l'idée du collectif. Et donc, je préfère ne plus les suivre dans les réseaux, comme je ne suis plus d'ailleurs plein d'autres militants et militantes de gauche qui mobilisent autour de leur personne pour défendre tout un tas d'autres causes. En même temps, je dois reconnaître que, du point de vue de l'efficacité, ils et elles ont raison. Ils sont hyperactifs, à chaque fois qu'ils disent un truc, même banal, ils sont énormément relayés et ça finit par peser. Parce qu'ils ou elles ont l'art d'incarner les causes qu'ils défendent, et d'ailleurs à leurs dépens souvent. En écoutant Jane, je me dis que ces gens ont peut-être raison de faire comme ça. Que si j'en reste à mes idées de vieille gauche collectiviste, on va droit dans le mur et que si on veut gagner en ligne, il faut utiliser les armes adéquates. Bref, il va peut-être falloir que je me rallie au pragmatisme de la personnalisation. Ça, c'est pour les contenus. Mais est-ce qu'il y a un espoir dans la construction d'outils et de plateformes alternatives ?
Yes, certainly.
Oui, bien sûr, il serait possible de développer un outil alternatif. Mais pour être massivement adopté, pour que ça change vraiment la vie des gens, il faudrait qu'il soit porté par des structures plus larges. On le sait, une fois qu'un outil est entré dans notre usage quotidien, nous avons beaucoup de mal à en changer. Regardez Zoom. C'est pas si simple d'utiliser une autre plateforme pour une réunion. À chaque fois, je me dis, oh, il faudrait que je fasse un effort. Et je ne le fais pas. Pensez aux gens qui ont un rapport lointain avec tout ça. Mais c'est aussi un défi avec la télévision. Essayez de trouver une chaîne plus progressiste. Aux États-Unis comme en France, on trouve des chaînes de télé très à droite, mais pas beaucoup de chaînes très à gauche. Il faut se demander pourquoi. Cette question de la domination conservatrice ne concerne pas seulement les plateformes, c'est pareil à la radio et à la télévision.
Si je suis bien le raisonnement de Jane, tout médium favorise donc mécaniquement les idées conservatrices ?
Oui, c'est tout un écosystème médiatique. Dernièrement, je suis retournée aux États-Unis pour travailler et en conduisant, j'essayais de trouver une station de radio. Tout était soit religieuse, soit conservatrice, sans exception, à part peut-être une qui parlait de sport. Dans mes recherches, j'ai remarqué que les conservateurs relayaient plus facilement des contenus provenant de médias. Pourquoi ? Parce qu'ils relaient des contenus qui proviennent de médias conservateurs. C'est pour ça que construire un nouvel outil ne suffit pas. Ça demanderait un effort plus holistique. Défier la domination conservatrice en ligne nécessiterait de comprendre quel est le fonctionnement global de l'écosystème médiatique.
C'est vrai qu'on a toujours tendance à considérer ces plateformes numériques comme des lieux où les conversations s'auto-engendrent, à partir d'opinions ou de ressentis. Mais bien souvent, la discussion numérique, elle est alimentée par des contenus qui proviennent des autres médias, des articles de presse, des extraits d'émissions de télé, etc. Ça m'avait beaucoup frappé quand je suivais les conversations sur les pages Facebook des Gilets jaunes. Beaucoup de ces discussions avaient comme point de départ, ou étaient alimentées par, des contenus de la presse classique. Alors même que le mouvement était très hostile à la presse mainstream. Et ce qui était marrant à observer, c'est que la plupart du temps, la presse était citée pour montrer à quel point les médias sont complices du pouvoir et ne doivent pas être crus donc. Mais dès que le média allait dans le sens de ce que pensaient les discutants, et ben là, il constituait une preuve irréfutable. Bref, ce qui frappait, c'était la porosité entre médias classiques et réseaux sociaux. Puisque, on le sait aussi, ce qui se passe en ligne dans les réseaux sociaux sert de plus en plus à nourrir les sujets des médias mainstream. C'est ça l'écosystème dont parle Jane, je pense. Or, il n'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, en France, pour des raisons à la fois sociologiques, capitalistiques, politiques, la sphère médiatique penche plutôt à droite. Avec parfois des stratégies bien huilées, c'est très intéressant d'observer comment une chaîne de télé comme CNews, par exemple, passe son temps à découper ses contenus, qui sont facilement découpables parce que des types viennent toute la journée raconter des horreurs, pour les balancer dans les réseaux sous la forme de courtes vidéos bien provoques qui, immanquablement, créent de la conversation. Et que tout ça va ensuite servir de point de départ à des articles dans d'autres médias. Jane, donc, a tout à fait raison de considérer qu'Internet n'est qu'une partie de l'écosystème et qu'il serait absurde de ne regarder que ce qui se passe en ligne. Mais du coup, je me pose une question. Est-ce qu'elle a idée d'un moment dans l'histoire où l'écosystème médiatique ou un écosystème médiatique a été dans son ensemble porteur d'idées progressistes, où le cercle donc est devenu vertueux ?
Pendant le mouvement des droits civiques des années 50 et 60 aux États-Unis, on a pu observer la convergence d'une grande variété de facteurs. L'apparition de journaux noirs, la constitution des églises en lieu de diffusion de l'information, et pour la première fois, la possibilité pour quiconque d'imprimer très facilement des tracts. Mais il y a aussi eu une alliance avec les médias blancs plus mainstream qui ont envoyé des reporters dans le Sud pour raconter ce qui se passait. La télé a fait de même. Ça n'était évidemment pas suffisant, mais cette convergence a modelé un écosystème. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'origine, il y avait le mouvement. Ce n'est pas les médias qui ont créé le mouvement, ils l'ont reflété.
Ce que dit Jane est à la fois rassurant, il y a des moments dans l'histoire où un écosystème médiatique s'est formé pour porter des idées progressistes, et à la fois, c'est désespérant. Les médias ne créent pas, les mouvements, ils les reflètent. C'est désespérant parce que ça signifie que si les médias français se sont tellement droitisés ces dernières années, c'est parce qu'ils épousent l'évolution de la société. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Mais voilà, c'est une preuve de plus que la vision d'Internet qu'a eue Perry Barlow, comme un cyberespace autonome et ouvert à tous, eh ben, elle ne s'est pas du tout réalisée. Et que si on continue à analyser Internet comme tel, on se plante. Voilà, on en est revenu au début de notre discussion. Avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question pour Jane. Elle a un peu parlé de la situation française, mais pas tant que ça en fait. Or, elle vit en France, bon, et elle doit forcément suivre ce qui se passe chez nous. Donc, je lui demande pour finir si elle voit des échos entre le travail qu'elle a mené aux États-Unis et ce qu'elle observe aujourd'hui en France. Alors, elle me dit, il y a plusieurs choses. Mais en fait, elle ne parle que d'une seule chose.
Éric Zemmour. Et la manière dont il tire profit du fait de ne pas pouvoir apparaître tous les soirs dans les journaux télévisés mainstream. Il brandit la liberté d'expression. C'est exactement ce que j'avais observé aux États-Unis. Les conservateurs ne cessent de dire qu'ils sont victimes de censure. Et ironiquement, ce qui les a portés à faire usage des médias numériques, c'est parce qu'ils y voyaient un moyen de contourner les médias mainstream qui, soi-disant, ne couvriraient pas leurs actions, des médias qui seraient gauchistes et les traiteraient mal, etc. Je retrouve ça aujourd'hui en France, dans une certaine mesure, avec Le Pen. Mais surtout avec Zemmour, autour duquel il y a une machine à fabriquer ce type d'idées. Mais on ne sait pas très bien qui est derrière, financièrement. On parle des amis d'Éric Zemmour, mais qui sont-ils vraiment? Qui a les moyens de faire imprimer toutes ces affiches? Qui est derrière tous ces robots et tous ces hashtags? Suivez-les, on ne voit que.
Sans jouer à se faire peur, j'espère que Jane n'est pas aussi lucide sur la situation française qu'elle ne l'avait été pendant la présidence Obama, quand elle voyait s'affirmer la domination conservatrice dans les réseaux et que pas grand monde n'y croyait. C'est assez rare d'inviter quelqu'un à parler et d'espérer qu'elle se trompe. Alors qu'on quitte le studio, je me demande quoi faire de cette discussion. Il y aurait une option fataliste qui serait de considérer qu'après tout, le destin d'Internet est conforme à celui des autres médias, de porter conjoncturellement des causes progressistes, mais d'être structurellement acteur de la conservation de l'ordre établi. Et il y aurait une option optimiste qui serait de considérer qu'Internet est plus qu'un média et qu'il porte en lui encore les moyens d'en faire autre chose à la fois techniquement et politiquement. J'avoue que j'oscille continuellement entre ces deux options. Merci beaucoup à Jane Schreddy. Son livre The Revolution That Wasn't a été publié en 2019 aux presses universitaires de Harvard. À la prise de son, c'était Vincent Godard et Vincent Désière. Au mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Au doublage et à la réalisation, Fanny Beauhuon. C'était Le Code a changé, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.